Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, je vais vous évoquer le philobiblion, ou l'ami des livres. À Londres, au 80 Pall Mall, à deux pas de King Street, se tenait autrefois la librairie de Beria Botfield, qui a vécu entre 1807 et 1863. Celui-ci était antiquaire, un antiquaire distingué et bibliographe. Il était aussi membre du Roxburgh Club, réunissant les plus grands bibliophiles anglais depuis 1812. Les goûts de Botfield étaient conventionnels pour l'époque, incunables classiques et bibles imprimées de préférence sur vilain, pas le papier, la peau. Il s'intéressait aussi aux ouvrages d'histoire naturelle et aux livres comportant des planches en couleur, aussi bien modernes qu'anciens. S'il tenait un état de parfaite conservation de ses volumes, il aimait les faire relier en plein maroquin, ornés de fer, par Simier, Bozerian Jeune, Roger Penn ou Charles Lewis, un habit neuf et de luxe pour un monument ancien, prestigieux. Botfield mourut à l'âge de 56 ans. Sa bibliothèque fut conservée intacte dans sa famille, à l'exception des manuscrits vendus au cours des 15 dernières années. Finalement, on demanda en 1994 à Christie's de mettre en vente la partie la plus importante de cette bibliothèque. Elle nécessita une dizaine de vacations. Parmi les incunables, les bibles, les impressions en grec et autres classiques constituant le catalogue Botfield se trouvaient une édition princeps du philobiblion de Richard du Berry, imprimé à Cologne en 1473. Cet ouvrage est important pour les bibliophiles car il s'agit du premier traité de l'amour des livres composé au XIVe siècle, donc par Richard d'Aughervilly, dit Richard de Bury, évêque de Durham et grand chancelier d'Angleterre. Cette date, 1287-1345. Celui-ci s'étant retiré de la vie publique, de la vie politique, vers 1343, avait décidé de ne plus vivre qu'au milieu de ses livres. Il n'en était pas moins homme de Dieu, car l'un de ses commandements tournait en tête quelques lignes. Non seulement nous remplissons un devoir envers Dieu en préparant de nouveaux volumes, mais nous obéissons à l'obligation d'une sainte piété, si nous les manions délicatement, ou si en les remettant à leur place réservée, nous les maintenons dans une conservation parfaite, de façon qu'ils se réjouissent de leur pureté et qu'ils reposent à l'abri de toute crainte lorsqu'ils sont placés dans leur demeure. Des paroles qui datent de 1340, au siècle où Dante expirait, tandis que Pétrarque et Boccace abordaient la littérature. Richard était vraisemblablement normand et sans doute moins bénédictin. Nommé précepteur du prince de Galles, le futur Édouard III, il gravit les échelons qui devaient le conduire à la chancellerie du Sceau. On sait qu'il mena des missions diplomatiques en Avignon auprès du pape Jean XXII, ainsi qu'en France. C'est au cours de l'une d'elles qu'il rencontra Pétrarque. Le poète a raconté cette entrevue dans une lettre intitulée « Tout le civet-il ». Il se tint à propos de cela, il est vrai, une conversation édifiante entre moi et Richard, alors chancelier du roi d'Angleterre, l'un des hommes les plus naturellement brillants et férus de littérature qui se put rencontrer, et qui, bien que né et éduqué en Angleterre, favorisant depuis l'adolescence un goût irréméable pour les pensées anciennes, une avidité de savoir immensurable, fit montre, de surcroît, d'un intérêt si scrupuleux pour les questions les plus futiles comme pour les interrogations les plus doctes. Bury avait pris par exemple l'habitude de déjeuner en s'entendant lire un livre d'Aristote dans ses versions latines, ou plus simplement encore le livre de l'un de ses auteurs latins de prédilection, tels qu'Horace, Ovide, Martial, Suétone, Sénèque, et parmi les pères de l'Église, saint Augustin et saint Jérôme. Sa bibliothèque était, paraît-il, aussi importante que celle de tous les évêques anglais réunis. Bury engagea la rédaction du philobiblion alors qu'il était malade et n'avait plus que 2 ans à vivre. Cet ouvrage est ce que les Anglais nommaient au siècle dernier une autobiographie, c'est-à-dire un récit au cours duquel l'auteur entremêle ses pensées et les événements qui ont agité sa vie. Ce texte serait aussi le premier monument littéraire de ce genre composé durant la période médiévale et le dernier classique latin. Qui ne frémit d'horreur d'un si funeste holocauste où l'encre est offerte à la place du sang, devait décrire Bury à propos de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Prévoyant les méfaits des prêts, il établit une règle pour faciliter la communication des livres aux étrangers. Si on vous demande un livre, prêtez-le, mais exigez un gage en échange et que ce gage ait une valeur réelle plus grande que celle du livre. Le Philobiblion fut pour la première fois imprimé à Cologne en 1473. L'exemplaire du libraire Botfield était relié au maroquin bleu orné de filets d'or. On sait qu'il avait auparavant appartenu à un certain Adam Luischer, comme en témoigne une inscription datée de 1515. Il contient aussi une marque du XVIIIe siècle. La Bibliothèque nationale de France possède deux exemplaires de cette édition Princeps, mais il lui manque la seconde, imprimée à Spire en 1483 par les frères Jean et Conrad Hust. Il existe une impression parisienne en 1500 par les soins de Jean Petit, et on compte six éditions anciennes jusqu'en 1600. Ce texte fut traduit du latin en anglais en 1832, édition elle-même réimprimée en 1888. Quant au français, ils durent attendre près de 4 siècles pour le lire dans leur langue, et encore dans une version incomplète. Le Philobiblion fut donc traduit pour la première fois en français par Hippolyte Cauchery et imprimé chez Aubry en 1856 à 500 exemplaires sur papier de couleur verte comme la couverture. Balzac, qui savait le latin, ne l'avait pas attendu, car il connaissait l'ouvrage et considérait son auteur homme de son temps, mais meilleur que son temps. Richard de Berry ne ménageait pas ses contemporains. Écoutez, que le clerc, couvert de cendres, tout puant de son pot-au-feu, ait soin de ne pas toucher sans s'être lavé au feuillet des livres. La propreté des mains, à moins qu'elle ne soit galeuse ou couverte de pustules, stigmate de la cléricature, convient aussi bien aux écoliers qu'aux livres. Nous pourrions citer des extraits entiers de cet ouvrage, mais autant vous conseiller de vous procurer l'édition établie par Bruno Vincent, parue en 2001 chez Parangon. Le texte annoté y est complet et tout bibliophile devrait le glisser dans sa poche et en lire de temps à autre des passages. Richard de Berry cite enfin Saint-Luc afin de rappeler que le Christ lui-même défendait toute négligence inconvenante dans l'humaniement des livres. Lorsqu'il eut lu dans le livre et qu'il eut offert les paroles prophétiques écrites sur lui-même, il ne le rendit au ministre qu'après l'avoir refermé de ses mains sacrées. Que par cette conduite les étudiants apprennent plus clairement à soigner les livres, qui dans quelque cas que ce soit ne doivent pas être négligés.